Voix Nues. Cette semaine, hommage à Marceline Loridan-Evans, disparue en septembre dernier. En 2012, elle s'entretenait avec Gila Lustiger. Ce soir, le non-retour.
Marceline Loridan-Evans. Donc on s'est arrêté hier, si on peut dire ça comme ça, à l'hôtel Lutetia. Là où on accueille après la guerre les déportés à leur retour des camps de concentration.
Oui, dans un hôtel luxueux qui fut l'hôtel de la Gestapo. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs. Oui. Oui, oui.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, qui vous accueille et puis combien de survivants vivent à l'hôtel? Ça me semble aujourd'hui complètement fou, finalement. Tout l'hôtel était plein de survivants?
Je ne peux pas vous dire le nombre.
Oui.
Je n'ai jamais su. Je sortais des camps, on nous amenait là, on ne savait même pas où on allait. Et devant, à l'extérieur, des centaines de gens nous montraient des photos pour nous demander les nouvelles de leur famille qui n'étaient pas rentrées. J'étais rentrée, il faut dire, très tard par rapport aux autres. Et donc, oui, les gens cherchaient leur famille, leurs enfants, leur père.
Vous avez quel âge à l'époque?
Quand je suis rentrée, j'avais 17 ans.
17 ans, incroyable.
Et donc, nous avions la même réaction, très violente, de dire « ils sont tous morts », ce qui était vrai d'ailleurs. Et je me souviens avoir dit à une femme « non, non, aucun enfant ne rentrera, ils sont tous morts ». Avec la même... sans me rendre compte plutôt de cette dureté de le dire aussi brutalement, parce que je sortais de cet univers quotidien de la mort. Et donc, je ne pouvais qu'être... que le dire comme je le ressentais à l'époque. Et je me souviens avoir pensé, oh, je suis aussi dure que les femmes qui nous avaient reçus à Birkenau... qui s'occupaient de nous alors que les camions étaient partis à la chambre à gaz et qui nous disaient « Ah, vous, les autres, où ils sont ?»« Ben, les autres, ils sont commandos du ciel, regardez, ils y vont. » Sans comprendre ce que ça voulait dire pour nous. Nous, on n'arrivait pas à le croire au début, on disait « Mais c'est pas possible !»
La mort est devenue, vous dites une fois, la mort est devenue votre pain quotidien.
Oui, absolument.
Oui.
Oui.
Et là, pourquoi vous restez, Marceline, 2 à 3 semaines à l'hôtel? Pourquoi aussi longtemps?
Eh bien, le temps de retrouver ma famille.
Elle était où?
Ben, on a retrouvé dans le sud, dans le château. Le lieu où j'avais été arrêtée, avec mon père. Mais il a fallu du temps, il faut comprendre que la France était encore... Bien qu'elle ait été libérée en 1944, la France, les Français ne se rendaient pas compte que c'était déjà la fin de la guerre pour eux, et puis nous, c'était notre fin de guerre, elle n'était pas la même. Elle avait lieu un certain nombre de mois plus tard, et on est arrivés, la première chose qu'on a fait, c'était comme à Auschwitz, je veux dire. On nous a déshabillés, tout nus, de nouveau, projeter du DDT, ça s'appelait DDT à l'époque, pour tuer tous les microbes, les morpions qu'on avait encore, les poux qui pouvaient encore traîner dans nos coutures de vêtements, pour nous désinfecter, ce qui était assez brutal, mais pour vous dire qui était là, je ne peux pas vous le dire. Quelles organisations, j'en avais même pas conscience. Il y avait beaucoup de scouts, et parmi ces scouts-là, il y avait un jeune homme qui est devenu un très célèbre acteur, dont j'avais conservé le nom, qui s'appelait Claude Rich, et c'est ce qui me lie à Claude Rich.
Incroyable.
Il recevait il faisait partie de ces jeunes scouts, ou organisations, je ne sais pas, qui s'occupait de nous aider à l'intérieur de cet hôtel. On nous a attribué une chambre. Je ne me souviens même pas si j'étais seule dans cette chambre, d'un luxe incroyable, après tant de misère, tant d'horreur.
Et là,
et là aucun des déportés qui rentrait ne pouvait dormir dans un lit. Tout le monde dormait par terre. Et il y avait une cantine, oui, voilà. C'était un hôtel particulièrement occupé par les déportés résistants et par les déportés juifs.
J'ai souvent entendu par d'autres déportés, parce que je suis une famille de déportés, rescapés, appelez ça comme vous voulez, que le retour était encore pire que dans le camp. Vous partagez cet avis ?
Oui, tout à fait. Parce qu'on revenait d'un autre monde, un monde qui n'était pas compris par les gens qui nous recevaient. Et d'autre part, il a fallu beaucoup d'années, souvent pour certains, de pouvoir se reconstituer. Il y en avait qui rentraient, ils n'avaient plus d'appartement, ils n'avaient plus de famille, ils ne savaient pas où aller. Il y en avait qui rentraient, ils découvraient que toute leur famille était morte, avait été déportée après eux, étaient passés tous à la chambre à gaz. C'était l'horreur. Et d'autre part, on prenait pas pied tout de suite dans la réalité de ce monde. Il nous fallait du temps. Et on n'était pas pris en main. Le débriefing, ce qui me fait toujours rigoler aujourd'hui, quand j'entends un avion s'est pété la gueule, et puis on va débriefer les survivants. Il n'y avait pas de débriefing. Débriefé de rien du tout, oui. Ça n'existait pas. Donc après, on était abandonnés, quoi. Donc chacun retrouvait ce qu'il pouvait. Il y a des déportés qui dormaient sur les bancs de Paris. Il y a des déportés rentrés. Leur appartement était occupé par d'autres familles qui en avaient hérité.
Et alors, Lou, vous vous souvenez, vous avez votre mère au bout du fil. Vous vous souvenez la première question que vous lui posez ?
J'ai attendu longtemps avant de parler à ma mère. Quand ils ont retrouvé ma mère, ma mère m'a dit « Tu vas rentrer, on t'attend, et ceci et cela. » Et moi, la seule question qui m'importait, c'est « Est-ce que mon père est rentré ?» Et quand j'ai compris, par les silences de ma mère, qu'il n'était pas rentré, comme je rentrais très tard, je savais qu'il ne rentrerait pas. Donc, personnellement, j'avais pas du tout envie de rentrer, mais il fallait que je rentre. Alors c'est l'hôtel du Tessia où les organisations en place m'ont mis dans un train. Dans un train qui a mis plus de 17 ou 18 heures pour arriver. Plus rien ne marchait en France. Il faut comprendre que c'était la pagaille encore. Il y avait toujours les cartes d'alimentation, c'était quelques mois après la guerre, mais dans une France en désarroi.
Comment était votre retour donc dans votre famille avec votre autre membre de famille? Je ne veux pas maintenant faire une hiérarchie de souffrance, mais qui était cachée, qui a sûrement aussi vécu un calvaire, mais qui n'a pas vécu le camp d'extermination. Comment ça s'est passé alors?
La première chose que ma mère m'a demandé, c'est si j'avais été violée. Et mon frère, pareil, mon frère aîné, pareil. Comme si le fait de ne pas avoir été violée, c'est OK, ça va. Et d'ailleurs, j'aurais dit ce que je voulais bien leur dire. Et d'autre part, il ne faut pas oublier une chose, c'est que mon oncle était venu m'attendre au train avec mon petit frère. Il m'avait dit, à la descente du train, qui revenait de Birkenau lui-même, le frère de ma mère... ne leur dis rien, ils ne comprennent rien. Non, moi, je n'avais même pas compris ce que ça voulait dire. Mais je m'en suis vite rendu compte en arrivant à la maison. J'ai dit, je ne veux pas rester plus de 24 heures ici. Je veux m'en aller. Je ne veux pas rester ici. Et très rapidement, ça a été des silences où... Quand j'étais à table, tout le monde était un peu gêné. Je pouvais pas supporter qu'on laisse un morceau de pain. Je me levais la nuit pour manger en cachette. Oui, j'étais déboussolée. Puis j'avais des cauchemars qui me faisaient hurler la nuit. Et puis je dormais par terre. Ma mère ne comprenait pas pourquoi je dormais par terre.
Souvent, le silence, ce n'était pas seulement dans votre famille. Ça veut dire, De Gaulle a aussi mis une chape de ciment sur le destin des survivants. On parlait
pas
de ça.
Oui, mais c'est deux choses différentes. Oui, c'est conséquent.
Oui.
C'est que les gens étaient déconcertés. Ils avaient vu des images de cadavres en pagaille de la libération des camps par les Américains ou par les Russes. Et donc, oui, les gens ne pouvaient pas imaginer. Même qu'ils aient vu quelques images aux actualités françaises. Et puis, ils savaient que ça avait été terrible, mais ils ne savaient pas comment ça avait pu atteindre profondément notre âme, notre corps d'accord, mais aussi notre âme. Que De Gaulle avait mis une chape de ciment pour glorifier, au nom de l'unité nationale, pour glorifier la France, d'avoir que c'est comme si tout le monde avait été résistant, ce qui était faux. Je ne sais pas, peut-être il y a eu 40 000 personnes de résistants parmi un peuple de 40 millions. Ce n'étaient pas nombreux, les résistants.
Marceline, vous avez dit, je n'étais sur la libération, sur votre libération, retour en France. Je n'étais pas heureuse. J'étais épuisée, c'était trop tard. Tout arrivait trop tard.
Mais oui, parce que tout de suite...
Mais n'empêche, Marceline, que vous vous êtes reconstruite.
Sinon, j'ai fait deux tentatives de suicide. J'ai été très malade, j'ai été dans un sanatorium. J'avais des crises de fièvre qui ressemblaient à des crises de paludisme. J'ai eu une primo-infection.
Qui vous a aidé, n'empêche, dans cette période? Personne?
Ma mère, elle me demandait où tu as été traînée pour attraper tout ça, quoi.
Et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'autres survivants, il n'y avait pas de...
Mais moi, je ne les connaissais plus, je les ai perdus. À partir du moment où j'ai retrouvé ma famille, j'étais dans ma famille. Et évidemment, il y a eu des déportés à Paris, sans doute, beaucoup moins en province, qui ont pu... qui ont été envoyés dans des centres de rétablissement à Megève ou ailleurs, et qui étaient entre elles. Mais moi, non, j'étais totalement isolée. Et je peux vous dire qu'on ne prenait pas nos adresses les unes des autres avant de partir. On ne connaissait même pas les noms de famille. Oui. On ne savait pas qui était qui.
Oui, évidemment.
On avait des bribes de la vie des autres.
Vous étiez à la fois très intime, très liée, et puis...
Il n'y avait plus de passé.
Oui.
On était liés dans le présent.
Oui. J'étais frappée par votre description de vos nuits d'errance à Paris, des boîtes à bebop.
Oui, mais c'est plus tard. Je suis venue vivre à Paris.
Mais j'étais justement frappée parce que vous décrivez un Saint-Germain qu'on ne connaît pas du tout. Ce n'est pas Saint-Germain de Sartre et Beauvoir. Vous dites que c'est un Saint-Germain des enfants perdus de la guerre.
Ah ben oui, bien sûr, il y avait beaucoup d'enfants perdus de la guerre, mais qui venaient d'horizons différents. Moi, j'ai eu un copain qui avait été, à l'époque, incorporé dans l'armée allemande, parce qu'il vivait en Alsace. J'avais un autre copain dont les parents étaient pétinistes et qui, lui, était paumé. J'en avais d'autres qui revenaient des maquis, qui étaient aussi paumés. On était des jeunes gens, des jeunes filles très jeunes, mais qui sortaient de les uns les autres d'autres horizons et qui étaient devenus copains parce qu'ils étaient dans la même errance ou dans la même solitude. Et ça a été la base de Saint-Germain. Il n'y avait pas que Sartre et Juliette Gréco.
Mais ce que je trouve étonnant dans vos descriptions de ce Saint-Germain de la nuit, finalement, des hors-la-loi ou hors du discours officiel du bonheur...
Ben nous, on n'était pas dans cet élan positif parce qu'on sortait du pire.
Oui, mais alors...
déception grande.
Mais ce qui me bouleverse là-dedans est qu'il n'y a plus de différence entre... rescapés et filles de collabo. Ça veut dire, ce qui vous lie, c'est le fait que vous ne faites pas partie de... Je vais poser cette question autrement. Il n'y a pas de jugement de votre part. Vous êtes avec ces gens-là, vous savez pertinemment qu'ils ont une autre histoire.
Oui, ils la cachent à moitié, puis on la découvre petit à petit. Mais on découvre, ah oui, tu savais pas un tel, ses parents c'étaient des pétinistes, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, il y en a beaucoup qui se sont engagés dans la guerre d'Indochine ou dans la guerre de Corée, qui ne sont pas revenus, par désespoir. Donc c'était plutôt ces enfants de pétinistes, plutôt qui partaient comme ça, et des garçons, pas des filles à l'époque.
Oui. Et alors là-dedans, comment vous rencontrez Francis Loridan, qui est votre...
Ah non, ça c'est autre chose, je l'ai connu dans le Midi.
Parce que lui est vraiment quelqu'un qui ne ressemble pas du tout, polytechnicien,
non, mais pourquoi
bourgeois, bonne famille, pas de guerre, pas de traumatisme,
et il
devient votre premier mari.
Lui, il venait du nord de la France, et c'était les grands travaux de...
Il était ingénieur.
Oui, voilà. Et c'était les grands travaux de transformation du nucléaire à Pierrelatte. Et là, je me dis, oui, peut-être c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre une vie plus tranquille. Il faut épouser quelqu'un de gentil. Ben, ma mère est furieuse d'abord parce qu'il n'est pas juif.
Oui, mais pour vous, avec un numéro sur le bras, vous appelez tout à coup dans cette France après-guerre qui, comme vous dites, reste, il y a un fond d'antisémitisme, de vous appeler Loridan et plus Rosenberg.
Tout d'un coup, je serai comme tout le monde, mais je ne suis pas comme tout le monde.
Ben,
ça s'est révélé
comme...
2 ans plus tard.
Oui, vous n'êtes pas comme tout le monde.
Je m'installe à Belfort.
Oui, vous êtes pas
dans un chantier d'élaboration d'un aéroport.
Voilà, on revient à ça. Vous n'êtes pas comme tout le monde, Marceline Loridan-Evans, parce que vous êtes à Belfort, choquée par les conditions de travail des travailleurs algériens.
Oui, mais en même temps, je vis là. Je fais la cuisine 2 fois par jour, je ne sais rien faire d'autre.
Vous êtes très, très révoltée. C'est dans votre
nature.
Oui,
je me rends compte comment on traite les Algériens. On les appelle les bougnoules, ils vivent mal. Je déteste que ces ingénieurs les tutoient tous.
Vous commencez... l'envers de la médaille de la colonisation, là.
Oui.
Votre engagement naît là.
Par humanité.
Par humanité.
Pas du tout par discours théorique Marx, Engels, je ne sais pas quoi. Donc, mon mari veut absolument partir aux colonies, et moi, je lui dis non, moi, je ne partirai jamais en Afrique. Il part à Madagascar. On est dans les années 50, déjà. Moi, je suis à Paris.
Comment vous gagnez votre vie et qu'est-ce que vous faites? Et surtout, je vais faire un énorme saut dans le temps. Comment vous arrivez à Jean Rouch et Edgar Morin? Parce que c'est là, si je ne me trompe pas, que vous débutez dans le cinéma.
Oui.
Ou est-ce que c'est avant?
J'ai fait beaucoup de métiers. J'étais serveuse dans des milk bars. Il y avait des milk bars en France, sur l'avenue de l'Opéra. J'ai tapé des textes de Jean Vienner, j'ai tapé des textes pour Roland Barthes. Petit à petit, j'ai connu des gens, et comme j'avais une très grande curiosité intellectuelle et que j'étais parfaitement ignorante, je me suis cultivée à travers les autres. Je demandais toujours des titres de livres, quel livre il fallait lire. Alors j'ai lu beaucoup de livres à l'époque, de Julien Gracq, de Gide, de Supervielle, des gens d'avant la guerre. Et puis j'avais des copains qui jouaient au théâtre, j'allais voir des pièces de théâtre. On passait tous par la porte de derrière parce qu'on n'avait pas d'argent. Et puis j'habitais encore chez ma mère, rue Condorcet, avec mon petit frère, ma petite sœur. Et ma mère était très inquiète des enfants qu'elle avait, parce qu'ils étaient très indisciplinés par moi.
Détruite par la guerre. Donc,
détruite par la guerre, après avec le suicide de mon frère, le suicide de ma sœur aînée, oui. Des choses très dures dans une famille détruite, puisque ma mère se remarie en cachette de nous. On découvre, je le découvre en rentrant par accident dans sa chambre, où elle est avec un mec qui a perdu sa femme et ses 5 enfants à Birkenau, mais qui n'est qu'un margoulin, quoi.
Oui, on n'a pas touché Marceline à ce chapitre, les suicides.
Mais Marceline, elle n'avait pas envie d'en parler.
Pardon ? Oui, c'est bien. C'est très, très
elle
bien.
Elle aussi, elle était paumée, la pauvre. Plus paumée, tu meurs. Mais j'allais quand même au Tabou, au Club Saint-Germain. J'ai découvert la Sidney Bechet en premier. J'ai découvert tous les jazzmen de Paris, qui venaient des États-Unis. Je connais bien Cossery, tous ces gens-là, oui. Oui. Et je me cultive à travers les autres. C'est comme ça que je rencontre Morin, que je vois le groupe Argument. Ah oui, aussi, il y a la période où je rentre au Parti communiste parce que je me dis que dans la vie, même si on n'est pas d'accord avec eux, bon, il n'y a rien d'autre, il faut faire quelque chose. Et tout d'un coup, si vous voulez, mon investissement, à un moment donné, après que j'ai divorcé et tout ça, les choses viennent, c'est au moment du divorce. J'ai déjà travaillé dans le cinéma plus tard.
Vous voulez pas...
J'ai mis 7 ans, 8 ans à divorcer. Il m'a fallu des années. C'est plus tard, ça, que je travaille déjà dans le cinéma sous le nom Laurie Dent. Et je lui demande l'autorisation de garder ce nom, c'est tout.
Donc, comment vous rencontrez finalement Edgar Morin et Jean Rouch ?
C'est difficile à dire. Est-ce que c'était dans
vous gravitez dans le même milieu, Marceline Laurie Dent Evans ?
Moi, je suis une transversale.
D'accord.
Je vais d'un milieu à l'autre. Je ne me suis jamais contentée d'un seul milieu et d'un seul groupe. Je ne supporte pas ça.
Et alors, le truc dont vous êtes plongée, comme vous dites, s'appelle Cinéma Vérité, Chronique d'un été.
Oui, mais vous savez, le ciné, la vérité est toujours relative.
Oui, voilà. Chronique d'un été, filmé entre 59 et 60.
Oui, mais c'est un film... C'est une période du cinéma très importante. Tout d'un coup, la parole arrive. Elle peut être enregistrée facilement dans la rue avec de nouvelles caméras qui ne font plus de bruit comme les caméras 35. C'est une nouvelle possibilité de faire un cinéma différent, direct, plus simple dans la vie. Et tout d'un coup, s'ouvre aussi l'idée que on peut se déboutonner soi-même à la télé. Donc le film, il a eu beaucoup de répercussions parce que tout d'un coup, il y avait des gens courageux qui osaient parler d'eux-mêmes. Autrement.
Marceline, il était sélectionné et primé en Cannes en 61, c'est ça ?
Il a eu le prix de la critique. Le
prix de la critique.
Et Marceline... Oui, moi j'étais à Cannes, j'ai demandé à Sophia Loren si elle était heureuse.
Oui. Parce que dans le film, il faut le dire, Marceline, dans le film, vous demandez à des gens dans la rue, s'ils ont heureuse, qui est absolument incroyable.
À l'époque.
Non, et à l'époque, et pour et donc, une survivante surtout.
Ah oui, ça.
Une survivante ça... de poser cette question, êtes-vous heureuse ?
Oui, mais c'est pour ça que les anciennes déportées n'aiment pas ce film.
C'est un film, je vous trouve sublime dans ce film.
Ah bon ?
Oui.
Il y avait des idées, les idées de l'époque ne sont pas celles de ce siècle, de ce nouveau siècle. Et moi, quand même, revenant de Birkenau, ayant vécu le pire, hein, si je ne participais pas à ce moment où on peut changer le monde, pourquoi je serais revenue ? Merci. Et c'était aussi un échappatoire de soi-même. C'était une façon, sans doute, de s'échapper à soi-même, en projetant vers l'extérieur, tu étais incapable de régler pour toi-même, d'évoluer dans ta pensée, dans ta propre méditation. Et donc, tu te rallies aux autres, tu es dans une espèce d'ensemble, et puis tu te rends compte au bout de 6 mois que c'est communiste, ça ne va pas du tout, et tu te barres. Mais ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber les idées. La guerre d'Algérie arrive, la gauche est épouvantable, elle est totalement colonialiste. Mitterrand, il était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a envoyé en Algérie le contingent. Si. Moi, je n'oublie pas l'histoire des hommes.
Et Marceline, vous risquez à ce moment-là gros, non l'ambiance.
Oui, mais j'étais hors marge, j'étais hors norme. Je risque, de quoi je peux avoir peur ?
Vous risquez quoi ?
De toute façon, on est toujours dans un camp dont je ne sors pas.
Parce que vous avez, il me semble, une fois, vous avez des coupures de combien chez vous, une fois ?
Des ?
Coupures de combien francs chez vous ?
Ah bah oui, parce que bah, moi je suis devenue pas une porteuse de valises, mais c'était chez moi qu'on triait l'argent, des petites pièces ou des petits billets, et qu'on les comptait. J'ai eu jusqu'à presque 1 milliard chez moi de francs, mais il manquait jamais un centime. C'était les gens qui les ramenaient dans des valises, et chez moi on faisait le tri, et puis cet argent partait, je sais pas où.
Marceline, j'ai l'impression que vous aimez vous mettre en danger. Vous frôlez consciemment souvent le danger.
Oui, parce que j'ai une humanité. Parce que si tu fais pas un chemin d'humanité, si tu privilégies pas, même si tu es dur dans tes convictions, si tu ne privilégies pas l'homme, la personne humaine, alors à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Cet homme, il est aussi respectable que moi. Je ne suis pas plus que lui. Mais moi, parce que je suis consciente, parce que j'ai un certain regard, je veux bien l'aider. C'est l'erreur, on n'aide jamais. C'est à ces peuples eux-mêmes de se libérer eux-mêmes. C'est une imbécilité occidentale, de l'arrogance colonisatrice, croyant agir avec les sentiments les plus généreux, alors que c'est à eux à le faire. On ne peut pas le faire à leur place. Donc, mais ils en prendront conscience et comprendront que la religion, c'est pas la liberté.
Merci Marceline Loridan-Ivens.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien enregistré en 2012 entre Gila Lustiger et Marceline Loridan-Ivens, disparue en septembre dernier. À voix nue. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.